Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon.
Merci. Vous laissez la star tranquille.
Un nouveau virus déjà présent en Afrique, détecté en France, la variole du singe, on en entend beaucoup parler ces derniers jours. Alors qu'en est-il réellement? Le nouveau gouvernement a été dévoilé aujourd'hui, on va voir tout ça. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'actualités, en bref, le programme est très chargé. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc tout de suite avec le premier sujet. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu ou suivi aujourd'hui, vous pouvez passer directement en avançant un petit peu donc vers le second sujet, mais rapidement, le premier sujet. C'est donc le gouvernement de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne qui a été annoncé aujourd'hui. Il y a des anciens ministres, des nouveaux, bref, quelques changements. On va donc passer en revue tout ça rapidement. Bon, déjà, commençons par ceux qui ne bougent pas et ce sont en l'occurrence des ministères assez importants puisque Bruno Le Maire va rester ministre de l'économie et des finances. Gérald Darmanin va rester ministre de l'intérieur. On pourrait citer aussi Éric Dupond-Moretti qui reste ministre de la justice. Il y a aussi pas mal de personnes qui étaient déjà dans le gouvernement à d'autres ministères ou d'autres postes. Par exemple, eh bien, l'ancien porte-parole du gouvernement Gabriel Attal va devenir ministre délégué chargé des comptes publics et Olivier Véran, qui était donc ministre de la Santé, vous le savez, va devenir ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Et d'ailleurs, le ministre qui était justement chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, est désormais ministre de l'Agriculture. Parmi les changements, on peut citer aussi Sébastien Lecornu, qui était jusqu'ici ministre des Outre-mer de la France et qui récupère de son côté le ministère des Armées. Pour ce qui est du ministère de la Santé désormais, c'est Brigitte Bourguignon, qui est l'ancienne ministre de l'Autonomie, qui a été nommée. Et au ministère du Travail, c'est Olivier Dussopt, qui était jusqu'ici ministre délégué chargé des comptes publics. On continue le listing, j'essaie d'être efficace, mais il faut quand même les citer. Le gouvernement a aussi une nouvelle porte-parole qui remplace donc Gabriel Attal. C'est Olivia Grégoire, qui était jusqu'ici secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on peut citer notamment Agnès Pannier-Runacher, qui est désormais ministre de la Transition écologique, et qui travaillera aux côtés d'Amélie de Montchalin, nommée ministre de la Planification écologique. En gros, ce sont elles qui vont incarner d'une certaine façon l'écologie au sein du gouvernement. Ça, c'est donc pour ceux qu'on connaissait déjà, mais il y a aussi des nouveaux qu'on pourrait citer. Pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est remplacé par Catherine Colonna, l'actuelle ambassadrice de France à Londres, qui a déjà d'ailleurs été ministre déléguée aux Affaires européennes sous Jacques Chirac. Pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'historien Pape Ndiaye qui a été nommé. Il remplace donc Jean-Michel Blanquer qui était ministre depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Cette nomination d'ailleurs est assez intéressante car Pape Ndiaye est décrit par la plupart des journalistes politiques comme un anti-Jean-Michel Blanquer. On verra donc concrètement ce qu'ils mettent en place. Et parmi les autres nominations importantes, on peut citer eh bien au ministère de la Culture où il y avait donc jusqu'ici Roselyne Bachelot. Et bien désormais, c'est Rima Abdul-Malak qui est une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron qui va prendre ses responsabilités. Bref, vous l'avez compris, quelques arrivées mais surtout un grand jeu de chaises musicale au sein du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de grands bouleversements. 14 ministres du précédent gouvernement ont été reconduits dans ce nouveau gouvernement. La plupart en fait des ministères clés, disons, n'ont pas bougé. On l'a dit, l'économie, l'intérieur ou encore la justice. J'ai pas détaillé évidemment tous les ministères, tous les ministres derrière, parce que sinon forcément ça prendrait beaucoup de temps, ni d'ailleurs tous les intitulés exacts de chaque ministère. Je voulais plus d'informations et plus de détails. Je vous renvoie directement à ce qu'on a posté sur Instagram. C'est un petit récap, tout simplement, de toutes ces nominations et de ce nouveau gouvernement. Du coup, n'hésitez pas à suivre tout ça. Sachant que vous l'avez compris, ce gouvernement qui va donc être mis en place, eh bien, il pourrait être remis en cause à l'occasion des élections législatives. C'est en tout cas ce qu'espèrent eh bien, plusieurs partis d'opposition, dont l'Union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, qui espère devenir majoritaire à l'Assemblée nationale et donc faire en sorte que eh bien, le gouvernement soit issu de cette majorité à l'Assemblée nationale. On verra donc si eux ou d'autres y arrivent ou non. Et on fera plus largement d'ailleurs un point sur les élections législatives la semaine prochaine. Allez, on poursuit avec un second sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, avec d'ailleurs parfois des tons alarmistes ou alors des photos dont on préférerait pouvoir se passer, des photos de boutons notamment. On va donc parler aujourd'hui de la variole du singe, aussi appelée monkeypox. C'est donc une maladie rare qui était pour l'instant surtout limitée à des zones en campagne du continent africain principalement, mais qui est donc ces derniers jours en train d'arriver notamment en Europe et de se propager dans plusieurs pays du monde, notamment donc en France, et on va voir ce qu'il en est pour bien comprendre s'il faut s'inquiéter ou non. En gros, plusieurs cas ont donc été détectés pour la première fois hors du continent africain, le 6 mai dernier par exemple au Royaume-Uni, et puis plusieurs dizaines de cas ont été détectés au Portugal, en Espagne, au Canada ou encore aux États-Unis. Et enfin, hier donc, un premier cas de cette variole du singe a été détecté en France. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement ? Alors la variole du singe, ça a plus ou moins les mêmes symptômes que la variole classique, disons, donc de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos ou encore de la fatigue. Mais en plus de ça, eh bien, les malades ont généralement des boutons qui apparaissent principalement sur le visage, dans les paumes des mains ou encore sur la plante des pieds. Des boutons qui peuvent dériver assez rapidement en pustules, des boutons qui peuvent notamment donc devenir blancs. Alors dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent au bout de 3 semaines, et donc c'est pas un virus au-delà de ça qui est considéré comme très dangereux, puisqu'il a un taux de létalité de 1%, ce qui veut dire qu'une personne atteinte sur 100 environ en meurt. Alors c'est forcément énormément quand on a énormément de cas qui sont recensés, mais pour l'instant donc le nombre de cas aujourd'hui est relativement faible. Et concernant les traitements, c'est une autre question qu'on peut se poser, il n'y en a pas vraiment de spécifique aujourd'hui, donc en fait les patients se soignent vraiment progressivement. Alors concernant la transmission maintenant, c'est une maladie qui se transmet par contact avec une autre personne forcément atteinte de la maladie, notamment par voie respiratoire, mais aussi beaucoup par liquide, dont la salive. Et selon certains experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, elle pourrait aussi potentiellement se transmettre lors des rapports sexuels. Plusieurs cas ont été recensés chez des hommes ayant eu donc des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais alors, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle pandémie, etc.? Là, en l'occurrence, aujourd'hui, les scientifiques se veulent plutôt rassurants. En gros, eh bien, c'est une maladie, certes, avec un taux de létalité donc de 1%, mais en fait, eh bien, c'est une maladie qui est beaucoup moins contagieuse aujourd'hui que le coronavirus ne pouvait l'être, et donc forcément ça fait que il y a un risque qui est plus faible. Et plus globalement en fait, aujourd'hui en tout cas, les autorités sanitaires se montrent relativement rassurantes. Cela dit, c'est pas non plus une situation qui se prend à la légère, très loin de là. La multiplication des foyers dans plusieurs pays ces derniers jours inquiète quand même l'OMS, et certains pays d'ailleurs ont décidé, c'est important de le noter, d'adopter des mesures dès maintenant pour éviter que le virus se propage. Alors on parle pas de confinement ou de couvre-feu ou quoi que ce soit aujourd'hui, hein, mais par exemple le Portugal et l'Espagne ont déclenché une alerte sanitaire nationale, et l'Italie notamment a placé le patient concerné à l'isolement. En tout cas, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré, je cite, « suivre la situation de près et donc recommander d'isoler et de tester les cas suspects pour les notifier rapidement ». Autrement dit donc, les autorités se veulent plutôt rassurantes aujourd'hui, mais suivent quand même de très très près l'évolution de la situation, et vous l'imaginez, comme dans ce genre de sujet, ça peut évoluer très très vite. Évidemment, du coup, je vous tiendrai au courant ce week-end sur notre compte Instagram Hugo Décrypte dès qu'on a du nouveau. Bon, alors en bref, aujourd'hui d'abord, on va parler de l'Ukraine avec cette information. Le Congrès américain, donc en quelque sorte le Parlement américain, a validé à une écrasante majorité l'aide exceptionnelle de 40 milliards de dollars à destination de l'Ukraine. Et c'est une aide exceptionnelle qui était voulue par le président américain Joe Biden pour que l'Ukraine puisse faire face, eh bien, à cette offensive de la Russie. C'est une aide à la fois économique mais aussi militaire, et selon le New York Times, c'est la plus grosse somme accordée par les États-Unis à un pays étranger depuis au moins 20 ans. Donc c'est vraiment une décision absolument historique de verser ainsi autant d'argent à l'Ukraine. Ce qui est assez marquant par ailleurs, c'est que ce projet a été soutenu à la fois par les démocrates et les républicains. Mais tout ça pour dire donc que là, il n'y a aucun doute aujourd'hui, les États-Unis prennent une place majeure dans cette guerre en Ukraine avec cette aide financière importante. Et c'est un soutien donc à la fois économique et militaire. On verra évidemment quels sont les impacts et les répercussions de tout ça dans les tensions et dans la guerre en cours dans les prochains jours. Autre actualité en bref aujourd'hui qui fait beaucoup parler, Israël a annoncé qu'elle n'ouvrira pas d'enquête interne, donc une enquête dans son armée concernant la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh de la chaîne donc Al Jazeera, qui a été tuée par balle il y a 10 jours lors d'un reportage en Cisjordanie. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Alors selon des informations reliées notamment par le média britannique The Guardian, Israël estime qu'il n'y a pas eu d'erreur de l'armée israélienne et que la journaliste journaliste a été touchée par une balle perdue, qu'elle soit palestinienne ou alors israélienne. Et vous l'imaginez, c'est une version qui ne satisfait pas du tout la Palestine aujourd'hui, et plus largement en fait une bonne partie de la communauté internationale, puisque de leur côté, l'ONU, l'Union Européenne et les États-Unis avaient exigé une enquête indépendante sur les circonstances de sa mort. Cette enquête pourrait donc, dans tous les cas, quand même avoir lieu indépendamment de l'absence donc d'enquête interne au sein de l'armée israélienne. Évidemment, là-dessus, je vous tiens au courant. Autre information majeure, aujourd'hui, l'État de l'Oklahoma aux États-Unis a voté une loi qui interdit complètement l'avortement, c'est-à-dire en fait dès la fécondation du fœtus. En gros, la loi a été votée par le Parlement de l'Oklahoma, parce qu'aux États-Unis, eh bien, chaque État, je le rappelle, a son Parlement qui peut voter des lois qui ne s'appliquent donc qu'à l'échelle de cet État. Et donc la conséquence, c'est quoi? Eh bien, si le gouverneur de l'Oklahoma la signe, elle deviendra la loi la plus restrictive des États-Unis à ce sujet. Et en fait, cette loi contourne d'une certaine façon la loi nationale, puisque aux États-Unis, en théorie en tout cas, eh bien, il n'est pas interdit d'avorter sur le papier. Sauf que, vous l'aurez compris, eh bien, dans les faits, un certain nombre d'États républicains eh bien, visent à restreindre le plus possible aujourd'hui l'avortement. Et par ailleurs, là on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne ces derniers jours, mais la règle qui autorise aujourd'hui l'avortement à l'échelle nationale et qui est inscrite dans la Constitution pourrait être supprimée dans les prochains mois, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ce serait à chaque État de dire si oui ou non l'avortement est légal sur son territoire sans avoir à respecter quelconque règle. Bref, vous l'aurez compris, pour résumer, et même si l'aspect législatif n'est pas forcément toujours évident à résumer, le droit à l'avortement aujourd'hui est plus que jamais menacé aux États-Unis. Autre actualité sportive cette fois-ci, vous savez de quoi je vais parler forcément, on va parler de Kylian Mbappé, le joueur français qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain, qui eh bien, devrait donner a priori sa décision ce week-end sur son avenir en club. Concrètement, la question c'est de savoir s'il reste au PSG, club dans lequel il est depuis 2017, ou alors s'il va au Real Madrid en Espagne, et selon le journal L'Équipe, eh bien, cette décision devrait être prise a priori ce week-end. Et ça se trouve d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, ça décision a déjà été prise et surtout il a peut-être déjà annoncé. En tout cas, vous avez peut-être déjà vu ces dernières heures eh bien, des montants assez mirobolants de plusieurs centaines de millions d'euros qui seraient en jeu dans ce contrat de Kylian Mbappé. C'est donc un fait sportif et financier absolument majeur. Et évidemment, du coup, ce week-end, on vous annoncera tout ça concernant Kylian Mbappé. Ça se passera directement sur notre compte Instagram dédié au sport. On en a un, on poste chaque jour des actus du jour, vous êtes de plus en plus nombreux dessus. Ça s'appelle hugodécrypte.sport. Rendez-vous donc sur Instagram ce week-end pour avoir les détails. Enfin, dernière actualité pour terminé cette année, le concours de l'Eurovision a été le théâtre d'une triche, je cite, d'une ampleur inédite selon en fait les organisateurs. En fait, il y a 6 pays, donc l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Martin, qui auraient tenté de manipuler les résultats des demi-finales en se mettant d'accord en fait sur leur vote entre eux et en s'ajoutant, disons, des votes. Les organisateurs s'en sont rendus compte heureusement et donc ils ont remplacé sur le coup les votes de ces 6 pays par ceux d'un algorithme. Bref, quoi que chacun peut penser du niveau des chansons. Ce qui est sûr, c'est que l'Eurovision est un concours qui reste très politique. Beaucoup de pays veulent vraiment bien figurer dedans parce que c'est une vitrine qui est importante à tout point de vue. Et ce n'est pas en l'occurrence la première affaire qui fait beaucoup de bruit concernant l'Eurovision. On verra là-dessus si on a du nouveau. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.